culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue à notre culte Espoir. Avec moi aujourd'hui, deux amies chroniqueuses, Juliana et Romina. Bonjour les filles.
Bonjour. Bonjour.
Et notre invité, Thierry Lenoir, bonjour.
Bonjour.
Alors Thierry, tu es notre invité pour une série de quatre cultes autour des paraboles de Jésus sur le royaume de Dieu. Il y a deux semaines, tu nous as fait réfléchir sur la parabole du fils prodigue. La semaine dernière, nous avons pu échanger sur la parabole du semeur. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Je vais parler de combats, mais de combats qui sont tellement justes, mais tellement impossibles. Mmh. Et Jésus nous a raconté une histoire qui va nous donner quelques clés.
Hâte aux combats impossibles ! Eh bien, je prie que le Saint-Esprit vienne guider nos échanges, qu'il vienne ouvrir notre intelligence, notre cœur, pour que nous puissions accueillir ce qu'il a à nous dire. Et je vous propose tout de suite de commencer ce temps de culte par quelques pistes pratiques pour notre première chronique « Dieu dans ma semaine ». Alors les semaines dernières, Marilyn et Mildred ont partagé leurs habitudes de lecture, seules ou en famille, et j'ai plusieurs choses à vous partager sur des lectures avec une amie et en couple. Donc la première chose, je voulais revenir sur une idée que je vous avais partagée il y a 3 semaines. Je vous parlais alors dans cette chronique du fait que j'avais eu envie, avec une amie avec qui j'ai mon groupe de croissance, de lire le livre de la Genèse à hauteur de 5 chapitres par semaine et de s'envoyer des vocaux par téléphone sur nos impressions, nos réflexions au fil de nos lectures, puisqu'on se voit par visio que toutes les 2 semaines. Ce fonctionnement nous permet d'envoyer un vocal de 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes quand on a un peu craqué, quand on vient de lire ou que tout d'un coup on a une réflexion sur un chapitre qu'on a lu le matin par exemple. Et l'objectif était de nous aider à nous remettre dans la lecture, la méditation et l'analyse de la Bible alors qu'on était toutes les deux un peu découragées. Et donc, plusieurs semaines de pratique plus tard, je peux témoigner pour ma part que lire ces chapitres et pouvoir envoyer mes réflexions spontanées à une personne de confiance qui, elle aussi, lit les mêmes chapitres et m'envoie ses retours, c'est très édifiant, c'est très motivant. Et donc, je vous recommande l'expérience. Et puis l'autre expérience que j'avais envie de partager avec vous, c'est la lecture d'un livre que l'on fait avec mon mari Brian, que j'appelle Brie. Donc avec Brie, nous avons lu plusieurs livres ensemble. Soit lui, soit moi, on lit à haute voix à l'autre une partie ou un chapitre. Puis nous échangeons sur ce qui a été lu. On a déjà lu avant d'aller se coucher, en balade, sur la plage, sur le canapé du salon, pour un début de sabbat ou en plein milieu d'un dimanche après-midi. On a aussi déjà lu plusieurs livres en parallèle, et je ne sais pas si c'est votre cas, mais pour ma part, je me suis longtemps mise la pression suivante. Quand je lis un livre, je dois le lire assez rapidement et en entier. Et ce type de pression quand on veut lire en couple, qu'il y a les rythmes des journées bien chargés, qu'on n'est pas toujours dans la même humeur, pas toujours disponible pour parler de tel ou tel sujet, ça peut vite mettre en échec cette expérience, pourtant si édifiante que la lecture d'un livre ensemble. Avec Brie, nous avons commencé un livre il y a plus d'un an. C'est un livre avec des chapitres très courts qui déclenchent des réflexions qui nous demandent pas mal de temps de maturation en fait. Eh bien, c'est un livre rendez-vous que nous lisons à notre rythme, sans pression. Et il se trouve que certains chapitres sont tombés pile poil à des moments où nous en avions besoin. Alors je me dis que des fois, c'est pas grave si cela prend du temps. Lire un livre à deux ou plusieurs, une autre expérience que je recommande.
Super, merci Amandine pour ces expériences que tu partages avec nous. C'est vrai que c'est une bonne idée de faire des lectures à plusieurs pour s'encourager, s'édifier l'un l'autre dans nos réflexions. De mon côté, j'aimerais vous partager la promesse du jour. C'est assez drôle parce que c'était comme par hasard le verset du jour qui est apparu sur mon téléphone au moment où je réfléchissais à ce moment de culte. Et je me suis dit, mais bien sûr, c'est parfaitement dans le thème. Alors voici la promesse du jour dans 1 Timothée 6, 12. Combat le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Thierry va tout à l'heure nous parler de ces combats impossibles, dans lesquels on peut parfois perdre beaucoup de temps, d'énergie. Eh bien, dans cette promesse, Dieu nous rappelle que pour ne pas se tromper de combat, il faut combattre le combat qui est au service de la foi. Et si l'on fait cela, nous vivrons avec Dieu pour toujours. Si ça, ce n'est pas un combat qui vaut la peine. Alors, on vous a peut-être parlé du test des 5 ans pour choisir de faire ce qui est vraiment important. Pour cela, la question à se poser est: quelle différence cela fera-t-il dans 5 ans? Et dans la même lignée, une bonne question à se poser serait: quelle différence cela fera-t-il dans la vie éternelle avec Dieu? Alors, parmi les choses qui sont vraiment importantes, je crois que l'amour de notre Dieu est un des sujets sur lesquels nous devrions passer beaucoup de temps à méditer. C'est pourquoi je vous invite à commencer ce moment de louange en musique en nous focalisant sur cela. On a besoin de se rappeler souvent que face à nos infidélités, nos fautes, nos échecs, Dieu est celui qui répond et qui répondra toujours par l'amour. Quoi qu'il arrive, son regard envers nous est toujours empreint de compassion et son amour n'a pas de conditions. En tout temps, nous pouvons nous approcher de lui pour nous ressourcer dans son amour. Mirella nous en parle dans cette magnifique chanson, à écouter sans modération.
mais je n'aurai plus d'autre Dieu. Car le creux de tes mains est l'endroit où je me sens le mieux.
Alors Thierry, quels sont ces combats impossibles dont tu aimerais nous parler aujourd'hui ?
Ben, ce sont ces combats qui sont tellement justes, nobles, beaux, et qui finalement nous fracassent. Des combats intérieurs, des combats contre tant de choses qu'on aimerait voir différentes en nous, hors de nous, autour de nous. Et puis on se rend compte que bien souvent, ils sont impossibles. Alors voilà, je suis certain que ça vous est arrivé, une fois ou l'autre. Une fois ou l'autre, parce que c'est d'ailleurs l'origine du burn-out. On dit beaucoup de choses aujourd'hui sur le burn-out. Le burn-out, c'est beaucoup plus que ce qu'on dit souvent, qui est une surcharge de travail. Non, je ne crois pas que c'est cela. Ça peut provoquer. Mais c'est surtout un surinvestissement pour un idéal qui est juste, noble, authentique, mais qui nous paraît impossible. Et on se brûle les ailes un petit peu comme Icare s'est brûlé les ailes au soleil de l'absolu et s'est effondré dans l'océan du désespoir. Ben, c'est ça, finalement, le burn-out. Est-ce que ça ne vous est pas arrivé de vous heurter à ce mur de l'impossible en cherchant à extirper de vous tout ce qui vous déplaisait? Pour finalement réaliser avec consternation que c'était fichu, que c'était peine perdue. Et à force de répéter, vous rendez compte que finalement, il faut abandonner. Pire, plus vous combattez ce qui vous contrarie, vous rendez compte souvent que plus il est encore présent après. Et que finalement, ça vous plonge encore plus dans un désarroi, parce que c'est en luttant contre une chose que vous donnez autant de pouvoir à cette chose que vous utilisez pour lutter contre elle. Ça, c'est une chose qu'on réalise, hélas. Alors Jésus vient à notre secours en nous racontant une histoire merveilleuse dont il avait toujours le secret. C'est l'histoire d'un homme, d'un agriculteur, et c'est Dieu, cet agriculteur, qui ensemence un champ. Alors le champ, ça peut être le champ intérieur, c'est ma terre intérieure, mais c'est aussi le monde qui m'entoure, dans lequel je suis. Alors il ensemence son champ, puis il va dormir après avoir ensemencé ses terres. Hélas, pendant la nuit, il y a un petit malin, mal intentionné, un obscur semeur de cisanie, nous dit le texte, c'est-à-dire de la mauvaise herbe. D'ailleurs, l'expression « semeur de cisanie », c'est Jésus qui l'a inventé. Donc voilà, il vient, puis il répand sa mauvaise herbe dans le champ, tout juste ensemencé. Et ce qui est étrange, c'est que non seulement le maître des lieux ne réagit pas, il dort. Mais plus étonnant encore, quand les semences se mettent à pousser, les bonnes et les mauvaises herbes, c'est là que tout à coup se révèle le problème. Et voilà que, étonnamment, le maître interdit à ses serviteurs de venir pour faire le tri. Étonnamment, il leur dit non, laissez la cohabitation. Laissez, parce que toutes les fois que vous allez essayer d'arracher cette mauvaise herbe, vous allez fouler au pied le bon blé et vous allez tout détruire. Donc, à vouloir éliminer, trier, épurer, vous allez faire qu'une chose, c'est détruire tout, y compris le bon. Face à un champ mêlé, et ce champ mêlé, il est en moi, il est autour de moi, Jésus propose non pas de lutter contre le mauvais, mais plutôt de valoriser tout ce qu'il y a de bon et de le choyer. C'est étrange, cette fameuse parabole de Jésus, dans la plupart de nos Bibles, il y a un titre qui est donné qui n'est pas d'origine, mais le titre dit « La parabole de la mauvaise herbe ». On n'a rien compris. C'est plutôt la parabole du bon blé. Mais toujours, on se focalise, et parfois il suffit qu'il y ait quelques plantes de mauvaises herbes pour cacher tout un champ de bon blé. Alors Jésus dit, non, la seule manière de circonscrire le chaos, plutôt que d'en ajouter, c'est justement d'arrêter de se battre contre, mais plutôt de donner toute notre énergie pour valoriser tout ce qu'il y a de bon. Alors remarquons que les ouvriers de la parabole, ils ne manquent pas d'air. Parce qu'ils viennent vers le maître et puis ils lui donnent des leçons de divinité. puisqu'il lui dit, écoute, voilà ce qu'on ferait, nous, c'est d'arracher tout le mauvais. Alors c'est vrai que si les foudres célestes étaient à la disposition des humains, je pense et je suis même certain qu'autour de nous et en nous, il y aurait un feu dévastateur qui ne laisserait que ruines fumantes. Et c'est vrai en nous aussi, que d'intolérance, d'orgueil, qui se déguise en ferveur religieuse, que de fanatisme, qui se prennent pour de la fidélité, que de radicalisme, justifié au nom d'une vérité exclusive, c'est aussi prendre le nom de Dieu en vain, ça, que de combats mortifères qui sont menés au nom même de Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a un lien évident entre ce champ mêlé et l'état du monde. Cette cohabitation du bien et du mal est aussi le reflet de votre réalité intérieure. Et c'est vrai que c'est très inconfortable et que c'est très déplaisant. Le champ du monde nous entoure, le champ du monde nous habite, et comment comprendre ce refus du maître de faire le tri? Et jusqu'où faut-il accepter cette cohabitation qui est contradictoire? Eh bien, j'aimerais vous proposer une expérience. Quand je parle à des enfants, j'aime bien rendre les choses visuelles, alors vous allez les visualiser. Vous prenez un verre d'eau, pur, limpide, et je vous propose d'introduire quelques pincées de terre, et vous mélangez le tout. Alors partons du principe que ce verre pollué est à l'image de notre intériorité et du monde qui nous entoure. Alors que faire? Alors quand je pose la question aux enfants, souvent les enfants me disent « c'est simple, tu balances ta flotte et tu remets de la propre ». Alors c'est peut-être possible avec le verre, c'est totalement impossible dans nos vies. Et c'est souvent le choix que l'on fait. On essaye de tout éliminer. Peine perdue, impossible, combat impossible. D'autres, plus futés, disent « écoute, c'est simple, il suffit de poser le verre, et puis après un petit moment de repos, l'impureté va redescendre. Mais hélas, dès que le verre est agité, tout est à casse départ. » Donc il reste une solution. Ne rien éliminer. Mais vous prenez votre verre et vous le placez sous une source d'eau. Et vous introduisez. Et à introduire l'eau, petit à petit, le verre devient pur. Vous n'avez rien éliminé, vous avez introduit. N'est-ce pas ça le juste et beau combat de la foi? Introduire et non pas chercher à éliminer. Moi, disait le petit prince, si j'avais 53 minutes, je crois, il disait cela, à ce vendeur de pilules qui nous faisait gagner du temps, il dit, moi c'est 53 minutes, je marcherai tout doucement jusqu'à une fontaine. Vivre dans un champ en friche, c'est ça, l'être spirituel vit qui vit dans un monde composite, mêlé, et que ce monde mêlé, il est en lui. Et Jésus propose de ne pas faire usage de désherbant. Notre rôle n'est pas d'être un purificateur, même dans ce monde qui nous entoure, mais un exhausteur de saveurs. C'est pour ça que Jésus a dit « vous êtes le sel de la terre », non pas pour tout détruire, mais pour donner de la saveur, et donner de la saveur à ce qui nous habite et qui est en nous. Et c'est pourquoi l'être spirituel ne juge pas, il ne porte pas un regard qui enferme les autres dans un esprit de jugement, mais il refuse de se focaliser sur ce qui peut nous déplaire en nous. Il faut arrêter ce combat impossible. « Moi, je ne juge personne », disait Jésus. Et il l'a dit à plusieurs reprises, et c'est radical. Et l'apôtre Paul a tellement bien compris que dans une de ses lettres aux Corinthiens, il dira « Donc, je ne me juge pas moi-même sans que je sois juste pour autant. » Le personne, c'est aussi moi. Qu'on le veuille ou non, nous sommes un champ en friche et je me prends comme je suis. Je me prends par le meilleur pour me donner ma chance. Non pas contre le mal, mais pour le bien qui est aussi là. On n'élimine pas les ténèbres en luttant contre elle, mais en allumant la lumière. C'est Martin Luther qui disait cela. Et quand je lis encore dans la Genèse, « Mange, mange, dit Dieu, de tous les arbres du jardin, mais ne mange pas de l'arbre la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Eh bien, chaque fois que je juge l'autre et que je me juge, je m'érige en Dieu. Et ça, dit Dieu, ne mange pas de ce fruit, parce qu'il est mortifère. Ne juge pas, tu ne connais pas ce qui est bien ou mal. accueillir notre belle part. Pour terminer, l'apôtre Paul, j'aimerais juste évoquer cela, est passé par une profonde dépression. Et ça, on le retrouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. À un moment donné, il dit « Mais ce que je fais, je ne comprends pas. J'arrête pas de faire le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux. Misérable de moi, rien de bon n'habite en moi. » C'est un gros mensonge. Mais c'est le propre de la dépression. Il s'est confronté à son mur de l'impossible. Et puis tout à coup, il découvre qu'il y a en lui une part de lumière, qu'il y a en lui un désir et que c'est aussi lui. Et il accepte d'être un champ mêlé. Grâce soit rendue à Jésus-Christ. Et bien voilà. Il porte en lui un désir de bonté, de pureté, et c'est sa part lumineuse, et c'est celle qu'il va mettre en avant. Il est prêt à recevoir la paix des profondeurs. Il a compris que le bon combat n'est pas à mener contre le mal, cherchant à l'éliminer, mais pour le bien, cherchant à le reconnaître, à l'accueillir, à le choyer, et ainsi lui donner la place. Et c'est ainsi que, juste après l'expression de cette grande dépression, Paul va pouvoir écrire aux Romains, c'est ainsi que le mal est vaincu par le bien.
Au combat impossible. Qu'est-ce qui t'a interpellé, toi, auditeur, auditrice, dans ce message? Quel élément souhaites-tu retenir? Une phrase? Un mot-clé? Quelque chose qui fait tilt pour ta vie? Et vous, Romina, Juliana?
Moi, je retiens le mot « accueillir ». Ce mot qui est tellement bienveillant, finalement. Accueillir soi-même, accueillir l'autre, et savoir voir que Dieu nous accueille aussi avec nos imperfections. Alors, étant une personne perfectionniste, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Et puis de me dire, finalement, si je lâche prise, en fait, de cette perfection, je mets Dieu au centre de ma vie. C'est lui le centre, c'est pas moi et mes imperfections.
Je crois que c'est un des mals de ce siècle, je crois, d'être perfectionniste. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont perfectionnistes.
Ouais, je me reconnais pas mal ce que tu dis.
Et moi, ce que je retiens, c'est juste le tout début de la parabole où l'agriculteur, en fait, il sème et après, il va dormir. J'aime bien cette... je me dis, Dieu, il est comme ça, en fait. Il fait son travail et puis après, il laisse faire. Et je pense que c'est un bon modèle pour nous. On n'arrive pas souvent à faire ça.
C'est vrai. Et toi, Thierry?
J'aime bien quand tu parles du perfectionnisme et ça nous libère de ce besoin de perfectionnisme. Une parole de Jésus à un jeune homme qui était plein d'idéal. Qu'est-ce que je dois faire de bon pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui répond, un seul est bon, c'est-à-dire, t'es pas Dieu, et la place, elle est prise, bonne nouvelle. Donc, me prendre par le meilleur pour me donner ma chance. Voilà, c'est ce que Jésus nous propose.
Ouais, et puis moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je me suis dit, en même temps, j'ai pas non plus envie de fermer les yeux sur ce que j'ai envie d'améliorer. Voilà, j'ai des défauts, j'ai des trucs que je trouve que c'est pas bien. Et que j'ai pas envie non plus de dire, je veux juste me concentrer sur ce qui est cool chez moi. Et puis j'ignore. Et c'est ça, j'ai trouvé la subtilité, c'est de se dire, je suis bien consciente de ce que j'ai envie d'améliorer, dans qui je suis pour moi-même et puis pour les autres. Mais c'est avec l'aide de Dieu, quand Dieu dit c'est moi qui vais faire les mauvaises herbes. Donc je sais que je remets ça au pied de Dieu. Aide-moi, toi t'es bon, toi t'es grand, toi t'es puissant. Et puis aide-moi justement à du coup pouvoir me concentrer ce qui est bon, parce que si je donne plus de place à ça, ça va avoir un impact finalement sur ce que j'ai envie d'améliorer. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me fait réfléchir. Je pense que ça va me faire réfléchir encore un bout de temps là.
Dieu est un père, une mère qui nous offre un regard bienveillant, c'est-à-dire qui voit le bien.
J'aimais bien la citation de Martin Luther. C'était comment déjà?
Au lieu de chercher toujours à combattre la lumière, le plus simple c'est d'allumer la lumière. Combattre l'ombre, excuse-moi, les ténèbres. Oui. Oui, tout à fait. C'est d'allumer la lumière, c'est le bon combat et le beau.
Alors Romina, cette thématique t'a fait penser à un sujet pour la chronique Dieu dans les arts. De quoi s'agit-il?
Oui, tout à fait. Alors ça faisait un moment que je voulais vous présenter Neis. C'est une artiste chrétienne lyonnaise et elle fait des très beaux slams. Et à chaque fois, je suis vraiment touchée. C'est très profond, ces poèmes. Et je vous invite justement à écouter Petite fille, tirée de son premier album Pause.
Petite fille, aimée par sa famille un peu naïve, qui aime tellement vivre, toujours entourée, toujours protégée, tout un monde à découvrir à chaque pas que je fais. Petite fille grandit, savoure sa vie, assise sur un banc, je regarde passer les gens. Toujours une famille à côté, toujours des amis à aimer, un avenir à tracer. Petite fille grandit, le ciel s'assombrit, la maladie qui ronge. Certains amis, le divorce d'une sœur qui brise sa vie. Le suicide n'est pas seulement à la télé quand il se passe juste à côté. La dépression qui s'invite dans certaines maisons. Des proches envolés, des amitiés brisées, une famille divisée. Une impression que tout le monde a déserté. Une conviction d'être oublié. Et puis le temps continue d'avancer. Il y a des moqueries au lycée, des coups à encaisser, des insultes répétées dans mon cœur ancré. Certains mots m'ont blessé et ont touché à mon identité. Finalement je ne suis peut-être qu'une plaie bonne à enterrer. La confiance, la vie, l'espoir, l'amour, je préfère oublier. J'en vois tout vaser. Déception, abandon, rébellion. J'endurcis mon cœur pour éteindre mes peurs. Des questions commencent à me torturer. Où aller? Qui je suis? Personne n'entend mes cris. À qui parler? Qui me connaît? Qui m'a créé? Pourquoi le monde autour de moi souffre? Je m'enfonce dans un gouffre. Petite fille devient grande mais n'a plus rien envie d'apprendre. Petite fille est une femme mais elle a mal dans son âme. Brisée, blessée, des autres rejetée. J'arrive même plus à rêver. Je regarde maman, papa, de grands cœurs qui ont la foi. Il y a de l'amour dans leurs yeux, de l'espoir même quand il pleut. Ils se laissent guider, porter, aimer par Dieu. Puis il y a des rencontres inattendues d'hommes et de femmes qui me parlent de Jésus. Un Dieu qui pourrait guérir mon passé. Dans mon présent il pourrait briller et pour mon avenir il peut s'en charger. Un Dieu qui aurait tout sacrifié pour effacer tous mes péchés. Un Dieu qui m'aurait aimé hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Je commence alors à lire la Bible, la parole que Dieu nous a laissée. Je découvre avec des yeux émerveillés que Dieu a sa main tendue vers moi et qu'il attend patiemment pour me prendre dans ses bras. Dieu m'explique avec douceur, mon enfant, n'aie pas peur. Avant même que tu sois conçu, je te connaissais, moi. Je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. Quand tu marches et que tu te couches, moi je le vois. Plus nombreuses que les grains de sable sont mes pensées vers toi. Une erreur, tu ne l'es pas, non, crois-moi. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance. Je suis aussi le Père qui peut te consoler de toutes tes souffrances. De te bénir, je n'arrêterai jamais. À mon image, tu as été créé, pour moi une créature merveilleuse, tu es. Dans le ventre de ta mère, je t'ai tissé. Quand tu t'assieds et que tu te lèves, moi, je le sais.
Même les cheveux de ta tête sont comptés, les larmes de tes yeux, je peux toutes les effacer. La douleur que tu as subie sur cette terre, je la porterai. Je suis capable de faire plus pour toi que tu ne pourrais l'imaginer et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi soyons réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. Si tu acceptes mon fils Jésus, tu me reçois. Pour gagner ton amour, j'ai renoncé à tout ce que j'aime, car d'un amour éternel, moi, je t'aime. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses quand tu cries à moi. J'ai toujours été le père et serai toujours ton père. Ma question est, veux-tu être mon enfant? Je t'attends, je t'attends. Je suis délivré, libéré, relevé, pardonné, aimé pour l'éternité. Je suis délivré, libéré, relevé, pardonné, aimé pour l'éternité.
Waouh, merci pour ce partage.
Quoi dire après ça, en fait? J'ai souvent les larmes aux yeux quand j'écoute cette poésie qui parle de cette petite fille qui grandit. Et je ne sais pas vous, mais je me suis identifiée à elle. À ce qu'on vit dans ce monde, à ce qu'on voit aussi. Dans ce monde, la vie est imparfaite, on le sait. Nous sommes imparfaits, pécheurs, parfois même brisés. Mais c'est touchant de savoir que Dieu nous voit comme des créatures merveilleuses. Il nous aime avec cet amour inconditionnel, éternel, qui est parfois difficile de comprendre, d'imaginer l'immensité. Alors oui, j'aime bien cette invitation qui nous est faite de venir puiser notre force en Dieu, en sa parole fidèle. Avoir confiance en celui qui se charge de tout, qui porte nos souffrances, qui nous relève quand nous sommes bien trop fatigués. Alors oui, je t'invite, cher ami, à regarder le ciel, car c'est de là que vient notre secours.
Nous avons pour habitude de partager avec toi, auditeur, un témoignage dans la chronique « Dieu agit ». Tout ce dont nous avons parlé m'a fait penser aux mamans. Je m'explique. Je ne suis pas maman, mais je suis entourée de mamans, des mamans douces, exigeantes, en colère, créatives, travailleuses, fatiguées, aimantes, surmenées, culpabilisées. Des mamans qui sont constamment en proie à une pression sociétale, une pression familiale parfois, une pression qui finit par s'auto-cultiver pour être the maman, la maman bienveillante, la maman performante, la maman qui sait lâcher prise, la maman qui... Et je découvre avec effroi le nombre d'épuisements, voire de burn-out maternel. Et quand j'observe ces mamans, je trouve que c'est une bonne illustration du conflit intérieur de beaucoup d'entre nous. Ce fameux champ intérieur fait de bonnes herbes ce que je suis de bon, de bien, de beau, ce que je fais de bon, de bien, de beau, et puis toutes ces mauvaises herbes, mes défauts, mes échecs, ces fichus états d'être et ces actions dont je ne suis pas franchement fière. Que je confesse à Dieu et pour lesquels je demande à Dieu qu'il me transforme petit à petit avec sa douceur, avec sa bienveillance, avec son amour. Et parfois, l'attention est tellement portée sur ces mauvaises herbes que ce n'est plus qu'elles que l'on voit. Et parfois, l'effort est tellement mis à les enlever qu'on n'a pas l'énergie de profiter, d'admirer les jolies herbes, qu'on n'a pas l'énergie de mettre en place les solutions qui permettent de développer le principal, à savoir les bonnes herbes. Cela m'a fait penser à Hélène Bonhomme. Hélène Bonhomme, dans sa vingtaine, tombe enceinte de jumeaux. C'est le rêve d'une vie, devenir maman, qui s'accomplit. Elle va vivre l'aventure de s'occuper de ses deux petits garçons. Aventure qui, malgré le soutien de son fabuleux, c'est ainsi qu'elle appelle son conjoint, va l'amener à petit à petit, sur 2 ans, sombrer, sans se rendre vraiment compte, à force de petites choses, de petits stress. Un bain qui déborde, des petites disputes à gérer entre les enfants, des réveils bien trop matinaux, à force de petites frustrations, de déceptions aussi, à tomber dans l'épuisement physique et émotionnel, le burn-out maternel. Elle témoigne de cette sensation alors de ne jamais avoir le sentiment du travail accompli, la vie du quotidien étant un éternel recommencement. Je range, je re-range, je re-re-range, je nettoie, c'est sali, je re-nettoie. Elle témoigne également de l'absence de reconnaissance. Qui va reconnaître tous ces gestes du quotidien accomplis? Et puis tout d'un coup, ce rétrécissement de l'identité. Je ne suis plus que mère. Et qui plus est, Une mère qui se juge en échec. L'estime de soi s'effondre et puis elle témoigne de sa colère et puis petit à petit de sa distanciation avec ses enfants. Elle devient victime, victime d'elle-même, de son comportement envers elle-même. Elle va alors penser « Je ne m'aime pas, je me déteste, je n'aime pas qui je suis, je n'aime pas ce que je fais, je n'aime pas ma manière de gérer mon quotidien. » Et elle résume cela en disant « Je manque cruellement d'amour envers moi-même, c'est moi-même qui me fait souffrir. » Finalement, de ce que j'en comprends, il semble que la mauvaise herbe prend toute la place et c'est épuisant de vouloir enlever toute cette mauvaise herbe qui ne fait que repousser tout le temps. Hélène Bonhomme parle de la recherche d'une perfection qui l'épuise, de la recherche d'un résultat plus que la recherche d'un bien-être intérieur qui l'empêche alors d'être ouverte à chercher et à accepter de l'aide. Si je reprends ma métaphore filée, il semble falloir accepter la réalité de ces mauvaises herbes pour s'en libérer. Alors elle témoigne que c'est en lisant le témoignage d'une autre maman de jumeaux épuisée, elle aussi, qu'elle va comprendre ce qui lui arrive et que de mettre des mots sur ce qu'elle vit va l'aider à aller de l'avant. Elle va accepter de mettre ses enfants quelques heures à la crèche alors qu'elle est en congé mat, lutter contre sa honte, son sentiment d'échec, pour avoir quelques heures de repos pour elle. Elle va en profiter pour faire quelque chose qui lui fait du bien, lire. Et à travers ses lectures, elle va ouvrir les yeux sur sa situation, sur qui elle est, sur ses aspirations profondes au-delà de sa situation. Elle va aussi faire une thérapie qui va l'amener à la guérison de blessures profondes, qui va l'amener aussi à faire évoluer la personne qu'elle est. Son fabuleux va aussi en parallèle évoluer et cela va les amener à devoir réapprendre à se connaître, traverser des crises qui vont, grâce à Dieu, amener à une construction, une reconstruction. Elle explique qu'elle a appris à s'aimer comme elle était. Elle a appris à s'occuper d'elle-même parce que cela est bénéfique pour elle, mais aussi pour les autres, pour sa famille. De cette expérience difficile va naître un ministère, un appel, je vous laisse écouter.
Quel est le groupe de gens vers lequel je suis appelée? Quelle sorte de gens je suis appelée à bénir? Quel type de personne je suis appelée à servir? Et peut-être que tu es là et tu me dis, oui, bon, écoute, moi, la question de l'appel, ça viendra plus tard dans ma vie. Parce que là, j'ai déjà tellement de problèmes à régler. Mon couple qui va pas, j'arrive pas à gérer mes ados. Le boulot, c'est la cata. Les finances, c'est la cata. La santé, c'est la cata. Et moi, j'ai envie de te dire, peut-être bien que ton appel, il est justement là, caché dans ton problème en ce moment. Vous savez, les Américains, ils aiment bien dire, your mess is your message. Pourquoi? Parce que si tu galères dans un domaine particulier de ta vie, cette compassion pour les gens qui traversent la même chose, elle va venir toute seule. Tu n'auras même pas besoin de la demander à Dieu. Elle va venir toute seule. Aujourd'hui, je suis appelée à m'occuper de jeunes mamans qui sont en galère dans leur foyer parce qu'elles se retrouvent avec des bébés et des enfants partout et qui se disent « Mais mince, mais comment je vais m'en sortir? Je suis la pire mère du monde. » Pourquoi est-ce que j'ai de la compassion pour elles, à votre avis? Parce que j'ai la même vie qu'elles. Et parce que moi aussi, je galère avec ça. Je galère un peu moins maintenant, mais je galère encore. Et cette compassion, je l'ai parce que je sais ce que ça veut dire de toucher le fond. Et aujourd'hui, il y a un phénomène de société qui s'appelle le burn-out maternel. Et aujourd'hui, on peut mettre des mots dessus. Pourquoi? Parce qu'on a cette compassion, on a cet amour pour cette foule-là, pour ce type de gens-là. Donc cette question à te poser, à poser à Dieu, Seigneur, mon appel, c'est qui? Vers quelle sorte de personne est-ce que tu m'envoies? Qu'est-ce qui me remue dans mes tripes?
Cette femme va créer un blog qui s'appelle « Les fabuleuses au foyer ». D'un simple article sincère, transparent, publié en mars 2014, va se développer un site internet suivi par plus de 100 000 femmes, des femmes de tout horizon, pas forcément du milieu chrétien. Il va se former une communauté d'aide et de partage. Elle va publier 2 livres, dont le livre « C'est décidé, je suis fabuleuse, petit guide de l'imperfection heureuse ». Elle va rédiger des chroniques pour des journaux, envoyer un mail matinal quotidien à 25 000 abonnés. Elle va prêcher dans les églises. Bref, de ce que je retiens de ce témoignage de vie, c'est l'idée de cultiver un regard bienveillant, bon, plein de compassion, cultiver le sens de l'entraide, de l'empathie et voir comment Dieu, lui, est capable de transformer la zizanie de nos herbes mêlées en bénédiction pour les autres.
Merci Amandine. C'est vrai que c'est un témoignage dans lequel on peut tous se reconnaître par moments, je crois, même si on n'est pas maman. Alors Thierry nous a invités à nous focaliser sur le bien, lui laisser toute la place, plutôt que de nous épuiser à essayer de lutter par nos propres forces contre le mal. Et pour cela, comme tu le dis Amandine, c'est important de nous focaliser sur la solution, plutôt que sur tout ce qui ne va pas autour. et en nous. Notre espérance, c'est ce Dieu qui est seul capable de nous transformer. J'aime beaucoup les paroles du chant « Mon espérance » du groupe, Souffle Nouveau. « Je ne suis plus celle que j'étais. Tout ce qui m'enchaînait est dans le passé. Je ne vois plus aucun intérêt d'y retourner et de m'y enfermer. » En d'autres termes, je veux fixer mes yeux sur ce Dieu qui peut me permettre d'avancer et sur mon ultime espérance. Sur cette terre, les bonnes et mauvaises herbes doivent cohabiter. Mais Dieu nous promet qu'avec lui, au ciel, le mal ne sera définitivement plus. Je vous laisse écouter. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, toi qui connais tout de nous, tu connais nos combats du quotidien, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Tu sais qu'il y a des combats, des luttes que nous avons depuis bien trop longtemps à notre goût. Tu sais que parfois nous nous épuisons à lutter par nos propres forces. Tu sais aussi que parfois nous nous trompons de combat et nous te demandons pardon pour tout cela. Seigneur, aide-nous à lâcher prise, à accepter que sur cette terre, il y aura toujours des luttes et que c'est justement pour cela que nous devons compter sur toi et te laisser combattre pour nous. Aide-nous à te faire confiance pour faire de ces sujets de lutte des sujets de bénédiction pour nous et pour les autres. Merci pour ton amour, ta bienveillance et ta présence dans tous nos combats, Seigneur. Nous te les confions. Amen.
Face à cette muraille, pas encore écroulée, Dieu, tu ne m'as jamais laissé. Voulant voir les choses changer, sachant le combat. Jamais laissé. Oh, 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 ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain. Tu ne m'as jamais.
S'achèvera, ta parole s'accomplira, mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis, garde-moi dans ton. Te chantera toujours. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain. Tu es avec moi, ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain. Tu ne m'as jamais laissé.
Et je le crois. je le crois. Oui, tu le feras encore.
J'ai vu ta main bouger les montagnes. Et je le crois. Oui, tu le feras encore. Dans l'inconnu, tu ouvres la voie. Et je le crois. Oui, tu le feras encore.
Je vais vous raconter un témoignage personnel, lié à une période un peu éprouvante de ma vie. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu des problèmes avec mon groupe d'amis proches, ce qui m'a amenée à me sentir seule. Donc, à la suite de cela, j'ai commencé à douter de moi-même, à me sous-estimer, à me dévaloriser. Je regardais le négatif en moi. Et bien sûr, cela me faisait souffrir et j'avais beaucoup de colère contre moi. Je me sentais vraiment nulle. À un moment donné, je me suis dit, bon, ça suffit quoi, j'en ai marre de me sentir comme ça. Et donc j'ai décidé de prendre ma vie en main. Et je me rappelle que j'ai commencé à lire un livre sur l'estime de soi. Et malheureusement, je suis désolée, je ne peux pas vous le recommander parce que je ne me rappelle pas du titre. Mais c'était bien. Et cette lecture m'a vraiment aidée, m'a fait du bien. J'ai commencé aussi à prier pour que Dieu m'aide dans cette démarche de guérison. Et je ne me rappelle pas ni comment ni d'où l'idée m'est venue. Mais j'ai décidé de tous les jours commencer, enfin écrire sur un post-it une de mes qualités. Et puis je la collais sur la vitre de ma chambre. Donc tous les jours, je faisais ce petit rituel d'écrire un petit post-it. Et bien sûr, ça n'a pas duré des mois, mais... À un moment donné, j'avais quand même quelques post-it sur la fenêtre et ça faisait du bien. Je les ai laissés quand même pendant un bon moment et je peux vous dire que juste le souvenir de cette vitre, c'est comme un pansement au cœur, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ces démarches que j'ai entamées m'ont vraiment aidée à reprendre confiance en moi, en mes qualités. Je me suis rendu compte qu'au lieu de me battre contre mes défauts et mes imperfections tout le temps, la meilleure méthode pour avancer était de me focaliser sur le bon. Et forcément, les choses ont commencé à changer. C'est là que les choses ont changé pour moi. J'arrivais à faire face à des choses qu'avant, je n'arrivais pas, parce que je manquais de confiance. Du coup, d'où l'idée aujourd'hui de vous lancer ce défi qui ne peut faire que du bien. Je voulais vous inviter pendant 10 jours, vous pouvez continuer plus longtemps si vous voulez, hein, de tous les jours écrire justement sur un post-it une de vos qualités et de le coller quelque part où tu vas regarder souvent. Donc tous les jours, écrire une qualité sur un post-it. Puis je te propose, à chaque fois que tu fais cela, tu puisses aussi vivre un moment de prière, de reconnaissance à Dieu qui t'a donné cette qualité. C'est lui qui t'a créé. Et cela pendant seulement 10 jours. Tu vois, ce n'est pas si difficile que ça. Et si jamais tu penses que cela va être difficile pour toi de te trouver 10 qualités, alors cela veut juste dire que ce défi est vraiment fait pour toi. Donc n'hésite pas, vas-y, fonce. Et n'oublie pas que si tu vis des choses difficiles dans ta vie et que tu te bats avec toi-même depuis longtemps, n'hésite pas à chercher de l'aide. Aujourd'hui, vraiment, on trouve plusieurs outils et des personnes qui sont vraiment disponibles pour t'aider à tenir en estime ce qu'il y a de bon en toi.
Merci Romina, je partage tes encouragements, cela vaut la peine d'être essayé. Alors merci Thierry pour ce thème que tu as choisi, pour ton partage, pour cette réflexion qui, je pense, va... Voilà, ça va prendre un temps pour que ça rentre bien en nous et que ça puisse faire son chemin. Je prie que tu continues d'être béni, guidé dans ton rôle d'aumônier, mais aussi dans tous ces projets que tu montes aussi avec ta femme pour servir, accompagner les gens. Merci d'avoir pris ce temps de venir vivre ce culte avec nous. Merci les filles pour vos réflexions, pour vos partages, pour votre authenticité. Merci auditeurs, auditrices d'avoir partagé ce temps de culte avec nous. Sois encouragé, sois fortifié, béni, rempli de l'amour de Dieu, de sa compassion pour toi. À la semaine prochaine, bye bye.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.